Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Propos, l'émission dévolue à la parole de notre évêque. Et vous êtes, je le sais, nombreux à ce rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de Radio Grand Ciel. Monseigneur Christori, bonjour.
Bonjour Christophe.
Et bonne année 2019.
Bonne année pour cette année qui vient, qui s'ouvre à nous, et qu'on espère heureuse, du fond du cœur vraiment. La paix et un cœur apaisé.
Un cœur apaisé.
Un contexte qu'on sait un peu tendu, un peu difficile.
On peut toujours garder un cœur apaisé sans remettre à Dieu.
Je pense, la question c'est où est-ce que je branche mon cœur et quelle est la source qui alimente mon cœur. Après, il faut se battre parfois pour des questions de justice et de société, mais je pense qu'on ne se bat bien qu'avec un cœur en paix. Le cœur qui n'est pas en paix n'est pas un cœur qui va pouvoir éclairer assez bien nos actions et nos pensées. Bon.
Alors,
en tout cas, bon vœu.
Merci. Alors, on évoquera la semaine prochaine peut-être les perspectives de l'année 2019.
Pour ce qui viendra, bien sûr, on pourra faire ça.
Les chantiers, les défis. Mais je voulais qu'on revienne aujourd'hui sur deux rendez-vous que vous avez eus en toute fin d'année, le 23 et le 24 décembre. Le 23 décembre dernier, vous avez rencontré les adhérents de l'association Foi et Lumière qui regroupe des personnes handicapées mentales et leurs familles. Je voudrais que vous nous parliez de ce moment, comment vous l'avez vécu.
Alors, de fait, j'avais eu la joie d'avoir une belle messe à Châteaudun le matin, donc avec des paroissiens, avec beaucoup de monde. Une belle messe qui préparait encore à Noël. Et puis, on s'est retrouvés très simplement. En fait, j'étais surpris parce qu'au fond, c'était très simple dans les salles paroissiales pour un déjeuner et toute une animation derrière. Nous étions peut-être une trentaine de personnes, donc... quelques personnes en situation de handicap, et puis bien sûr une équipe que j'ai vue, que j'ai découverte, très chaleureuse, très, très simple, très avenante pour chacun. Et ce qui m'a touché aussi, c'est de voir que les personnes plus fragilisées donc par cet handicap étaient autant actrices vivantes du groupe que celles qui... conduisait un peu les choses, quoi. C'était très familial, voilà. Très familial, voilà.
Ouais. Alors, plus que le handicap physique, le handicap mental fait peur, parce que ça nous renvoie évidemment à notre propre fragilité psychique, parfois. Et d'autre part, parce qu'ils sont difficilement intégrables dans une vision qu'on a, nous, chrétiens, qu'on partage tous, d'un Dieu d'amour. Ah, on se dit, mais si Dieu nous aime tous, pourquoi certains partent-ils avec... des handicaps et des souffrances à la naissance.
Ah, il y a plusieurs questions derrière ça. Hein. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a peur ? Moi, je pense que la différence fait toujours peur. La différence, elle suscite un inconnu dans la relation. Et cette part d'inconnu inquiète toujours. C'est le cas quand on rencontre des gens qui ne sont pas de notre culture, qui ont des comportements différents des nôtres, des codes différents des nôtres. Donc la différence suscite une forme d'angoisse, de crainte et de peur. La force de la personne qui vit un handicap, souvent notamment mental, c'est de simplifier la relation. C'est-à-dire que nous, on est capable, si on pense être normal, entre guillemets, parce qu'au fond, qui est normal, c'est une vraie question, on pense maîtriser. Mais en maîtrisant, on se crée aussi un peu un jeu de rôle, quoi. On apparaît, on veut paraître. C'est toujours une tentation. Ces personnes, elles ont une forme de simplicité absolument incroyable, quoi. Je me rappelle de Tim Guénard, cet homme qui a une conversion radicale, qui est une force.
Que nous avons en Suisse, même.
Ah oui, il est venu ici, d'accord. Incroyable. Et qui dit qu'il a fait de la boxe parce que son père avait été un monstre, il a voulu tuer son père. Donc il a fait de la boxe, il avait un métier qui était tailler des pierres, donc un métier de forçat, d'homme, en tout cas solide. Et il dit que dans les combats de boxe qu'il faisait, jamais il avait eu un chaos. Sauf qu'un jour, un jeune handicapé, il s'appelait Philippe, je crois, lui met la main sur le cœur et lui dit « Toi, t'as un bon cœur. » Et cette parole-là, dira Tim, m'a mis KO comme aucun boxeur m'a mis KO. Parce que ce Philippe, il n'avait pas de façade, il n'avait pas de jeu de rôle, il était lui-même et il lisait à travers l'apparence de Tim, il lisait au fond son cœur. Et je pense que ce sont des révélateurs au fond ces gens-là.
Il n'y a pas de comédie sociale finalement.
Il n'y a pas de barrière sociale.
Puis nous on avance souvent, on avance. Oui, on avance parfois masqué dans la société, c'est pas
très
leur cas.
Très souvent. Et eux, bah oui, nous dévoilent en quelque sorte. Alors on peut aussi avoir peur de ce dévoilement. Parce qu'on a le sentiment qu'on devient un peu comme si on était regardé à travers nous-mêmes, quoi. Un peu dénudé, un peu.
C'est peut-être ça, oui, finalement.
On a peur de ça. Ouais. On a peur de ça. Après, il y a aussi des craintes, c'est qu'on se dit comment dois-je me comporter, comment dois-je parler, comment dois-je être avec ces personnes-là qui elles-mêmes ont des façons de s'exprimer qui nous déroutent, etc. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, pour être très franc avec vous. Enfin, j'ai côtoyé de temps en temps des familles qui avaient un enfant handicapé ou autre, mais j'essaie d'être simple, de parler comme on parle à tout le monde. Après ça. La personne entend, comprend à sa façon, et c'est bien.
Oui. Il y a une spiritualité des personnes handicapées. Ah, c'est une question que je me pose. Comment elle est vécue, la foi, lorsqu'on est une personne handicapée mentale?
Il faudrait leur demander à elle, parce que je ne suis pas à leur place.
Mais
d'abord, je pense que tout homme, tout être humain a une spiritualité. En tout cas, son cœur aspire à une relation avec le divin. Et au fond, avec l'amour. Là, par exemple, on a fait un mime. On a mis en mime la nativité avec ces personnes. Donc, on a costumé les gens. Et très simplement, vous savez, une couverture transforme un homme en Joseph, par exemple. Hein, et puis, une couronne transforme un autre en roi, en roi mage. Donc, c'est facile. Et elles sont toutes heureuses de jouer ces rôles de la crèche et d'incarner ainsi cette scène très, 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 très pastorale, très jolie. Mais en même temps, on sent qu'elles vivent de l'intérieur, que ça les rejoint. Et parfois, elles peuvent avoir des intuitions spirituelles qui nous surprennent. Oui. Elles ont une vie spirituelle. Et je pense qu'il faut les ouvrir à ça. Vraiment, profondément.
Il existe ce qu'on appelle une éducation spécialisée pour les personnes handicapées ou une éducation adaptée. Est-ce qu'il faut adapter, spécialiser la catéchèse en direction des personnes handicapées mentales?
C'est une question plus large parce qu'au niveau de l'éducation elle-même, on se la pose. Beaucoup de parents souhaitent qu'un enfant qui a un handicap soit quand même dans un milieu d'enfants autres et partage leur vie, et ça me paraît une bonne chose. Maintenant, je sais que quand j'étais curé précédemment, on avait un groupe avec des jeunes femmes remarquables qui animaient des jeunes et des adultes, mais qui avaient une maturité peut-être encore de jeunes. Et leur capacité à comprendre, à intégrer était effectivement très différente. Ouais. Donc il fallait bien un temps spécial pour eux. Mais j'ai vu aussi leur chemin, je leur ai célébré leur communion, leur confirmation. Et c'était très important pour ces personnes comme pour leur famille, vraiment.
Un autre rendez-vous important, le 24 décembre, vous avez célébré une messe au centre de détention de Châteaudun. C'est un autre moment fort, évidemment, une rencontre avec des personnes humaines qui vivent en marge de la société. Comment cette rencontre avec les détenus s'est passée?
Alors, donc, c'est une messe. C'est assez. Je découvre que c'est assez habituel que des évêques prennent le temps de célébrer dans une prison qui est sur le territoire de leur diocèse. J'en ai vu plusieurs depuis qui ont vécu ça, soit le 23, soit le 24, soit même le 25 matin. Donc nous c'était le 24, donc le lundi après-midi, une équipe d'une dizaine de personnes animait cette messe, donc c'était bien parce qu'on pouvait rentrer avec un certain nombre d'animateurs, d'aumôniers de cette prison. Ils connaissaient eux-mêmes beaucoup de ces hommes, c'était des hommes qui sont retenus là. On s'est retrouvé donc dans une salle de sport, pas très grande, mais bien aménagée avec une estrade. On avait un décor, il y avait un hôtel qui avait été même construit avec des prisonniers, m'a-t-on expliqué, avec même des bois. L'hôtel est en bois avec différentes pièces de bois qui viennent de différents continents pour signifier à ces prisonniers qu'au fond, l'hôtel est comme un signe de leur diversité. Et puis, des beaux chants. Alors, il y avait un groupe de Géorgiens. Il y avait un groupe de Roumains, il y avait quelques personnes arabes, il y avait des français de souche, comme on dit, c'est assez différent. J'ai trouvé les gens et ces hommes à l'écoute, même si parfois il fallait qu'ils traduisent entre eux pour ceux qui ne parlent pas le français, donc c'était parfois un peu plus bruyant qu'une messe normale, mais une vraie écoute. Et alors, ce qui m'a absolument surpris, c'est que la consécration eucharistique a été un temps de silence absolu, une sorte de moment de grâce très beau. Après, pour la communion, certains sont venus, d'autres on leur avait expliqué que un peu les conditions d'une communion, et puis ils se sont fait bénir, mais grand respect. Et puis ensuite, on a eu un temps convivial autour de gâteaux, de pâtisseries, d'une boisson. Moi, j'étais content. Je pense que c'est vraiment important que des hommes, des femmes, pour ceux, les lieux où il y a des femmes, et des équipes d'aumônerie vivantes, parce que ces gens les regardent comme des frères.
Ouais.
Et ils se sentent regardés comme des frères.
Alors, la prison, c'est un lieu qui est inaccessible à ceux qui ne sont pas détenus. Il y a d'un côté les prisonniers, de l'autre les gardiens. Par contre, c'est un lieu qui n'est pas inaccessible à Dieu. Aucun lieu n'est inaccessible à Dieu. Il y a des conversions au sein des prisons.
Oui, alors ce qui est vrai, c'est que l'aumônerie a une mission d'aumônerie. Elle n'est pas là pour prendre parti. D'ailleurs, on lui dit clairement qu'il y a des règles très strictes de comportement par rapport aux personnes. Donc, on est là pour rencontrer les gens, pour échanger avec elles. Mais moi, j'avais été à Fleury-Mérogis plusieurs fois déjà, il y a quelques années, pour des messes pareillement, et je sentais que c'était important que cet amour de Dieu dont on leur parle rejoint leur cœur profond et leur apporte de l'espérance, de la paix, beaucoup plus qu'une distraction, ça pourrait être une sorte d'animation. Il ne faut pas se cacher que certains sont heureux d'avoir 2 heures qui coupent un peu leur journée, souvent un peu monotone. Mais il y a une quête de Dieu et peut-être aussi le Seigneur rééduque leur conscience. Le monde est bizarre parce que le monde veut proposer aux gens une très grande liberté et en même temps, la loi de Dieu, elle est oubliée, on ne l'enseigne pas, on ne parle pas de la Bible, on ne parle pas des commandements divins. La loi civile, souvent, beaucoup de gens la rejettent, la comprennent pas, n'en veulent pas. Et du coup, leur propre conscience se trouve face à un vide, un peu comme une eau sur un espace large qui ne sait pas par où aller, vers où se diriger. Et du coup, oui, je pense que la parole de Dieu, d'un seul coup, éclaire leur chemin et ils s'appuient dessus, oui. Très précieux.
Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres questions que je voulais vous poser à ce propos.
Comme toujours, Christophe. Hein.
On arrive presque au terme de cette émission. Peut-être deux mots sur le décès du père Philippe Ferré, qui a été un collaborateur passionné et passionnant de Radio Grand-Ciel.
Oui, le père Ferré est un homme était âgé, 65 ans de ministère. Il a été impliqué dans l'Église dans beaucoup de choses. C'est un homme de Dieu, un homme de l'Écriture. Hein, il disait que le grec était sa langue maternelle, donc il aimait beaucoup ça. Il a beaucoup lu les cahiers de l'Évangile, sont des petits livrets qui paraissent régulièrement sur la parole de Dieu. Il a eu un problème de diabète assez conséquent récemment. Il avait été amputé de la jambe. Il allait d'un seul coup très bien. Enfin, très bien. Il était, m'ont dit certains, lumineux. Je l'ai vu 2 fois dans le dernier mois. Il pensait à cette rééducation qu'il aurait bientôt. Et puis, il a eu un gros AVC et il nous a quittés. Les funérailles étaient hier, donc à Damary. On a eu une célébration que j'ai trouvée très famille et très... beaucoup de gens sont venus, c'était plein, on devait être peut-être 400 personnes. On sentait qu'il avait rassemblé tous ceux qui, depuis des décennies, l'avaient croisé et qui l'aimaient et qui, voilà, pour qui il avait compté vraiment.
Ouais.
Une belle personne, oui.
Une très belle personne.
Très libre.
Monseigneur Christori, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer donc les défis de l'année 2019 pour notre diocèse de Chartres. Merci. Je vous rappelle que cette émission, vous pouvez évidemment l'écouter en podcast sur radiograndciel.fr. Excellente fin de journée à toutes et à tous.